le rendez-vous des amateurs de sport. Avec Michel Tifot et Dominique Bolduc. Bienvenue dans le vestiaire. Dans le vestiaire.
Après un début de semaine laborieux côté température, voilà qu'aujourd'hui, c'est quand même très beau parce qu'on est à quelques pas, quelques heures de l'automne. Dominique Bolduc, bonjour.
Oui, bien, ça commence le 23 cette année.
Ben voyons là, on a bien rendu tard l'automne.
Ouais,
on va-tu arriver à Noël en même temps que tout le monde?
Ben, normalement, là, l'été qui décide de faire de l'over un petit peu, parce que pour dire que le mois de juillet était assez ordinaire. Mais...
Quoique là, c'est beau.
Oh, ben, le mois d'août était bien, le mois de septembre était bien aussi.
Puis la semaine prochaine, il annonce encore... pas si pire.
Oui, oui, ah, ben absolument. Écoute, pour le début de la chasse, ça a des belles températures.
C'est vrai, la chasse.
Quand même est... bien. Faut pas qu'il fasse trop chaud à la chasse, hein?
Tu as déjà été à la chasse, toi?
Non, non.
Non, moi non plus.
Pour,
Ben, je suis allé à la chasse à. Comment ils appellent ça? Le... Faisan.
Ah, OK.
Ouais, je suis allé à
chasse au Faisan.
Chasse au Faisan.
Avec Pierre Fitzgibbon, non?
Non, non. Il y avait un festival. À l'époque où je travaillais à Delbeau, ça s'appelle le Festival du Faisan de Saint-Stanislas.
Oh, Saint-Stanislas.
Ouais, ouais.
Municipalité dans le nord du lac.
Ça ne doit plus exister, ce festival-là. Là.
Hey, ça peut être...
Ouais, vérifie donc si ça existe encore. Le hein, Festival du Faisan festival de Saint-Stanislas.
Ça existe encore.
Bon, les
Reds. Ça existe encore.
Ça existe encore. Hein, ouais, ça doit faire longtemps parce que moi, je suis allé là. Hein, ça doit faire 50 ans qu'il existe d'abord.
Ouais, ben, en fait, une nouvelle formule. Fête familiale du Faisan cette année, que ça s'appelait. Okay. Et l'année prochaine, ce sera la 50e édition.
Ah oui, tu as dit que quand je travaillais à Delbeau, ça fait une cinquantaine d'années, j'étais allé là, Saint-Stanislas. Et mon Dieu, les petites municipalités au lac, là, quand tu fais du sport, tu as joué soit au ballon-ballet, à balle rapide, ou hockey, ou à la chasse. Ou,
oui.
Il y a des belles municipalités au lac.
Certain.
On dit Normandin, Girardville, dans ce coin-là, là. Tu sais, la maison du Père Noël est là.
Oui.
À Girardville. C'est loin.
Ça a toujours été quand même assez sportif. Tu sais, ils ont un complexe.
Il y a un aréna. Il y a un aréna. Joueurs qui est là.
Dès qu'il y a des tournois, le moindrement normandin, il se sert de l'aréna de Girardville pour jouer ces matchs-là aussi. Donc,
Normandin, il y a un bel amphithéâtre.
Un très bel amphithéâtre, effectivement.
Il y a de l'âge.
C'est que le Junior 2A qui joue. Là.
Junior 2A.
Avec
une bénévole. Je sais qu'elle nous écoute des fois. Elle s'appelle Nicole Villeneuve.
Oui, j'ai déjà entendu parler.
Elle, cette femme-là, là, elle s'occupe du hockey. Ça doit faire 50 ans.
Si c'est pas de Nicole, je suis plus sûr qu'il y a des éperviers Junior 2A à Normandin.
Entièrement d'accord avec toi.
Parce que, écoute, les éperviers, ils pourraient jouer à Delbeau. Non, ils sont à Normandin. Je suis allé voir un match à un moment donné, demi-finale contre Jonquière, un match 7.
Ouais.
Le chac était plein. Puis en sortant, il y a deux voitures de police SQ pour être sûr que ça dérape pas.
Ouais.
Mais écoute, c'était plein. Il y avait de l'ambiance dans la cabane. Non, Normandin, là, belle place.
Elle a donné du temps au hockey junior, au hockey midget. Les jeunes la connaissent. Tu sais, pour les personnes qui ont joué au hockey midget junior, qui sont allés au lac, le nom de Nicole Villeneuve.
Absolument, absolument.
Bon, les Jays sont en game, ça va bien. 7-1 hier, on a frappé. 3 circuits. Là, Kikuchi, on a-tu des détails, sa blessure? Il n'a pas fini le
match. Oui, bien c'est ça, il y avait des crampes. Il a expliqué pourquoi.
Il a expliqué pourquoi?
Pourquoi il y avait des crampes.
Ah, c'est quoi?
C'est parce qu'il a dormi juste 11 heures la nuit précédente.
11 heures, il dort plus que moi.
Il dort 13. Il dit, avant un départ, il dort entre 13 et 14 heures.
Et tabarnouche, je ne me suivrais pas. Moi, je dors 4-5 heures en nuit.
Il dort entre 13 et 14 heures. Il dit, j'ai juste dormi 11 heures, ça m'a donné des crampes.
Ben, tabarnouche.
Écoute, les joueurs...
Comment tu dors de temps, toi?
Ah, écoute, si j'en fais 8, je suis content.
Ah non, moi, c'est 8, moi, c'est rare.
Ouais,
c'est 5 et 6,
moi, c'est 5. 7, là, 7 heures, puis des fois, genre, il me manque une heure, puis ça paraît.
Des fois, je dis aux gens, à 4 heures le matin, je te donne mes nouvelles. Ben non, 4 heures, je dors plus.
Mais si
mon
peux...
métabolisme, ça fait 50 ans, je me lève à 4 heures du matin.
Puis si je peux, dans la fin de semaine, là, si je fais un 10, je suis content, je suis capable de faire un 10.
6 heures le 5, 6 heures, 7 heures, c'est de la grosse matinée, c'est bien rare que ça arrive. Là. Alors, puis Guerrero, quand il a frappé son coup sûr hier à 9e, il t'a dit qu'une chance qu'il avait un mauvais lancer au premier but parce qu'il était out.
Oui, absolument, absolument.
En espérant que c'est pas grave. Texas a gagné, Seattle a gagné, fait que c'est ça.
Oui, et là, Texas mène 10-4 actuellement contre Boston.
Bon.
Toronto doit gagner ce soir. Ouais. Baltimore mène 1-0 sur Houston. On est en début de 5e match.
Non, c'est pas
deux coureurs sur les 5.
Tu sais, quand je te disais en début de semaine, il faut qu'il en gagne, il en restait 12, là. Il faut qu'il en gagne 8, puis 9, pour être sûr, 9, là.
Absolument.
Parce que là, Texas, ils ont eu une mauvaise passe. Ils vont donner une poule.
Oui.
Puis les Yankees, c'est pas toujours une équipe facile. Demain, je pense que c'est leur meilleur lanceur.
Oui.
Dans le soir, c'est accessible ce soir. Là.
Ouais,
demain, c'est Cole, Derek Cole.
Oui, je pense que c'est Garrett Cole demain qui devrait lancer.
OK. À part ça, Brad Marchand, nouveau capitaine des Bruins de Boston.
Oui, ben, je pense que c'est pas un secret pour personne. C'est une formalité.
Ça revenait à lui.
Oui, tout à fait. Donc, il remplace Bergeron comme capitaine. Et j'ai hâte de voir le chandail des Bruins en vrai. De voir là, lorsqu'ils vont disputer parce qu'on va célébrer le 100e anniversaire de l'équipe en 2024.
Dans mon livre à moi, avec Chicago, c'est le plus beau des chandails.
On va ramener le style un peu plus vintage des années 80, début 90.
Moi, j'ai un chandail de la Ligue nationale dans mon garde-robe.
Celui de Bobby R.
Des Bruins de Boston. Je ne l'ai jamais porté.
On a sorti le jaune un peu plus doré, un peu à la Golden Knights. Et on a enlevé les épaules jaunes sur le chandail noir. Donc, il est tout noir avec les lignes jaunes et blanches sur les bras. Il est de toute beauté. Et même le logo, on a enlevé un peu de noir. Donc, il est jaune-blanc. Il est beau.
Il est beau. Le chandail des Bruins est beau, mais c'est sûr qu'au niveau des logos, c'est l'Indien.
C'est les Blackhawks de Chicago.
C'est le plus beau logo. Mais dans les beaux chandails de hockey, les Saguenayens.
Saguenayens, un beau chandail aussi.
Les rayures, ses épaules, là.
Ah oui, ben c'est pratiquement
c'est unique. C'est carrément unique. Là. Paul Byron a annoncé sa retraite. C'était un des rapides patineurs dans l'histoire du Canadien, avec Bobby Sheehan. Te rappelles-tu de Bobby Sheehan?
Pas vraiment, non.
Non, lui, il patinait pas à peu près. C'est Byron. Oui. Patinait vite comme Byron.
Byron a reconnu quand même une belle carrière. 521 matchs dans la Ligue nationale. 98 buts, 110 passes, mais il a connu ses meilleurs moments avec le Canadien. Et il a tenu à écrire une lettre quand même. Là, écoutez, il a une longue lettre où il a réfléchi sur les meilleures décisions à prendre pour sa santé. Le mieux, évidemment, c'était la retraite. Mais il va rester...
Mais la décision est facile à prendre, ces gens-là sont riches.
Non, oui, c'est sûr.
Tu sais, je veux dire, monsieur, madame, tout le monde là, qui travaille, puis est rendu à 50, puis 60 ans, il y en a des personnes qui sont obligées de continuer à travailler parce que ça coûte cher.
Ça coûte cher,
tu vas avoir un petit peu, tu vas voir ce qu'ils doivent.
Mais ils ont un train de vie un peu plus vite que le nôtre.
Mais il va avoir
quand même un emploi, va rester comme consultant au développement des joueurs chez le Canadien.
Bon. Dvorak commence pas l'année?
Non.
Ça fait-tu de la place à Pearson? Parce que là, c'est un nouveau, ça, Pearson.
Mais en fait, Pearson, c'est un allié gauche. On va avoir une lutte de ce côté-là. Harvey Pinard est allié gauche. Dvorak, c'est un joueur de centre. Reste à voir ce que Pearson pourrait jouer au centre. Je ne sais pas.
Pinard peut jouer au centre mal pris.
Oui, aussi. Mais tu sais, à choisir entre Pearson et Pinard, on prend Pinard.
Ouais,
je peux bien comprendre.
Il coûte 3 millions l'autre.
Oui, je peux bien comprendre Ken ça. Mais de ce que j'ai vu, ça peut très bien passer par le balotage. Fais pas le job, tu le portes par le balotage. Puis merci, bonsoir. Le but, c'est de se débarrasser de Casey Smith.
Là, il y a un choix de repêchage.
C'est un choix de troisième round.
Mais si tu passes sous le nom balotage, t'as rien pour.
Là. Pas grave. Sauf 3 millions.
D'accord avec toi.
Il faut développer. On est en reconstruction chez le Canadien. Fais de la place aux jeunes.
Serge, es-tu au téléphone? Il est là, hein?
Il est là.
Puis Christian Dvorak, c'est quoi la blessure de Dvorak? Il recommence pas avant l'automne, lui, là?
Non, c'est ça. On dit qu'il devrait pas revenir avant le mois de novembre. Il a été opéré au genou. En mars dernier, il a patiné avec les joueurs au cours des derniers jours, mais il n'est pas prêt. Là, sa réhabilitation n'est pas terminée.
On s'en va au Portugal. Je ne sais pas quelle heure il est là-bas. C'est pas le même heure que nous autres. Serge Cloutier, bonjour.
Attends un petit peu, je vais baisser. OK. Serge est là, oui.
Vas-y. Salut, Serge.
Bonacci.
Comment tu dis ça, Bonacci?
C'est
Bonacci.
Bonsoir ou bonne nuit.
Ah, OK. Il est quelle heure là-bas?
9h moins 20, il y a 5 heures de décalage avec le Saguenay.
Et la température au Portugal?
Là, on est revenu aujourd'hui d'une journée là, longue, mais belle, mes amis, avec une croisière sur le Douro, une visite dans un jardin, pas botanique, mais presque, un dîner, j'ai rarement vu un dîner comme ça, vin rouge, vin blanc et un petit porto pour dessert.
Oh, okay. Au Portugal, c'est quoi qu'on mange?
Au Portugal, beaucoup de poissons.
Ah, du poisson, bien sûr, oui.
Il ne faut pas que tu sois allergique. Quelqu'un qui est allergique aux poissons, là, c'est plus difficile un petit peu.
Mais moi, je suis allé en Israël, Serge. En Israël, c'est du mouton, là, de l'agneau. Puis moi, j'en mange pas de l'agneau. M'a dit quelque chose. J'avais hâte d'arriver à Tel Aviv, capitale américaine, pour manger une pizza.
Mais je peux vous dire que ceux qui veulent un jour aller au Portugal, ça fait une semaine qu'on est ici, là, 4 nuits à Lisbonne. Là, on termine ce soir à Porto. Demain, on s'en va vers l'Algarve, là. Et c'est un voyage magnifique. Il y a des gens, des fois, qui se disent, « Ah, mais un voyage comme ça, tout seul, je ne serais pas capable. » Faites un voyage de groupe, accompagné. Vous ne manquez absolument rien.
Serge, est-ce que ça joue au hockey au Portugal?
Non, mais le soccer est
Ben
tellement
oui, ça c'est sûr
populaire.
qu'en Europe, c'est le soccer. Ça joue pas au
Ah.
hockey, ça joue pas au baseball, sûrement pas non plus.
Sais-tu que je vais vous poser une question? Je ne serais même pas capable de répondre. Y a-t-il un Portugais qui joue dans la Ligue nationale?
Non,
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 non.
non.
Je suis pas sûr qu'il y en a déjà eu un. Hein.
Non plus,
Ben, moi,
non.
je ne pense pas non plus. Alors, à un moment donné, gardons, fait un beau voyage, c'est le fun. Puis je suis content de jouer avec vous autres parce que je suis tellement heureux. Évidemment, je suis une nouvelle à tous les jours. Vous savez comment est-ce qu'on est, comment qu'on se renvoyage à l'autre bout du
T'es
monde.
heureux de quoi? C'est quoi la nouvelle qui te fait sourire là-bas à l'autre bout du monde?
Ben, la nouvelle, c'est que mon ami, parce que c'est un ami, on a toujours resté avec des bonnes relations, Pascal Vincent est rendu entraîneur-chef.
Ah, t'es
Quand
chum avec
j'ai.
Pascal Vincent?
Ben oui, mais c'est parce que Pascal, moi, je l'ai connu quand je décrivais les SAGS pendant 7 ans au
OK.
Cap-Breton.
OK.
Alors, lui est au Cap-Breton. Après ça, il a déménagé. Il s'en allait avec le Rocket de Montréal. Là, il s'est allé dans la Ligue américaine, Manitoba, Winnipeg. Là, il était rendu à Columbus. Mais moi, je me disais, il est encore adjoint. T'sais, Babcock, qui était, t'sais, le coach était supposé être là. Puis c'est ci, puis c'est ça. Quand j'ai vu cette semaine qu'on lui avait confié le poste pour 2 ans, un contrat, on a confiance en lui, 51 ans. J'étais vraiment heureux. Là, il me reste deux gars que je connais bien, que j'aimerais ça un jour qu'ils montent, Benoît Groulx et Patrick Roy. Alors, les deux, Benoît Groulx, Patrick Roy, semble-t-il, ce n'est pas pour tout de suite. Mais là, au moins, Pascal Vincent est dans la Ligue nationale. Puis ça, c'est vraiment rafraîchissant pour le hockey junior québécois.
Mais c'est drôle, hein? Plus ça retarde, plus je pense que Patrick Roy, il n'aura pas de job.
Ben là, je vois.
Ouais, là, il joue au golf, puis là, il va commencer à aimer ça, être en retraite. Puis il m'a dit, si cette année-là, il y a pas de place dans la Ligue nationale pour Patrick Roy, là, moi, je vais mettre une croix là-dessus.
La seule place, on en a parlé souvent, les gars, c'est Ottawa. Si un jour le coach Smith est congédié, il pourrait peut-être être l'homme de la situation. Je dis encore une fois, peut-être. Mais pour le moment, Pierre Dorion est là. Le
Serge
coach est.
Boucher est là, là, à
Non, il est à
Ottawa.
Toronto, Boucher.
Ah, t'es à Toronto, OK, je
Non,
m'excuse, t'es à
non, c'est
Toronto.
ça.
T'es à Toronto,
C'est
je
pour
suis
ça.
mêlé, là. Il y a
Ben oui, mais ça, écoute, il y a tellement de coachs qui changent de place, ça devient mêlant, Michel. Il n'y a pas de gêne à ça. À un
OK.
moment donné, ça se promène partout.
Ouais,
Mais ça,
c'est Sheldon Keefe qui est mieux de gagner à Toronto. Parce que c'est Boucher. Je savais qu'il y en avait un qui. Je me rappelais plus si c'était De Smet ou Sheldon Keefe, mais à Toronto, Sheldon Keefe, il est mieux de gagner vite, lui.
Ah ben oui, mais c'est ça. Mais regarde, on y a signé un contrat, là. Fait qu'on a
Ouais.
confiance en lui. On se dit qu'éventuellement, ils vont avancer dans les séries. Ils ont toujours des bonnes saisons, mais ils n'avancent pas dans les séries. L'année passée, ils ont gagné une première série. C'est déjà pas pire. Alors, à ce moment-là, on verra pour le futur de Benoît Groulx et de Patrick.
Bon, Serge, je sais que tu n'as pas la tête aux Sags beaucoup, sauf que les opinions sont partagées ici. Et le coach, puis le directeur général, très prudent, Yannick Jean, parce que, tu sais, on lui demande si ça va être une grosse saison, puis lui, puis il a raison. L'équipe est très, très jeune, ça bat 18 ans en moyenne d'âge. Mais il y en a qui pensent qu'il pourra connaître beaucoup de succès. C'est qui, hier, Dominique, qui mettait Saguenay premier, là, dans la
Ouais.
division?
Non, ben dans la division,
C'est
c'est
Claude.
Bécomo.
Claude.
Claude Lucier.
Ah, Claude Lucier, hier, il mettait les Saguenayens premiers dans leur division. Moi,
Ah
j'en
ben écoute,
doute, là.
il y a le droit. Moi, je pense que Bécomo, ils ont un an d'avance sur les SAGS.
Ouais.
Alors, tu sais, je veux dire, ça, c'est Bécomo, là, j'ai lu un petit peu des prédictions là, avec Stéphane Leroux et d'autres, là. Moi, je pense que les SAGS vont terminer au classement général là, entre 7 et 10.
Ça
Classement
pourrait
ressembler
d'accord avec
à
ça.
ça.
Ça a de
Ouais.
l'allure. Ça a de l'allure.
Ça pourrait
C'est
ressembler à
l'équipe,
ça.
ben c'est l'équipe la plus jeune de la Ligue. Donc, il va falloir que les quatre choix, là, puis Massé, Derusso et compagnie, progressent. Les jeunes de 16 ans, ils ne peuvent pas
Alors,
transporter.
Serge, ça veut dire que cette année, top 10, l'année prochaine, top 5, puis dans 2 ans, top 1.
Ben, c'est
Ça
sûr
veut
que.
dire dans 2 ans, il n'y a plus de niaiseur. Il passe la gratte.
2024. Pas pire encore, puis encore mieux. Puis 2025, ça va être l'équipe, probablement l'équipe à battre. Cette année, je pense, les gars, là, que c'est Rouyn-Noranda qui a l'équipe à battre. Ils ont un méchant club de hockey. Puis Halifax est encore là. Je parle de deux équipes dans toute la ligue, sur les 18, là. Rouyn aspirant tout de suite pour aller à la Coupe Memorial. Puis Halifax, comme l'année passée, puis encore mieux cette année, parce que Dumais revient, à moins d'une surprise générale. Puis Dumais, il était premier compteur à peu près avec 150 points l'année passée. Alors, les Saguenayens, belle progression, des bons jeunes, c'est encourageant, mais Bécomo, beaucoup plus fort pour cette année. D'ailleurs, Bécomo, il commence la saison sans Vézina vendredi soir.
Oui.
À ce moment-là,
c'est tu sais que le jeune gagnon de Jonquière, il n'est pas revenu à Bécomo. Il a percé l'alignement des recrues, des Sharks de San Jose, puis il commence le gros camp demain.
Ben oui, ils l'ont gardé.
Quelle belle nouvelle pour ce Félix Gagnon.
Ben ça, c'est une surprise agréable. Une vraie surprise agréable. On pensait pas, là. Tu sais, il était faire un tour là-bas. Puis à un moment donné, plus ça allait, mieux ça allait pour lui. Alors là, à un moment donné, garde. Tant mieux, il va certainement revenir à Bécomo. Mais surveiller le Drakkar cette année, là, ça va être une très, très bonne équipe de hockey. Puis les Saguenayens, mais je pense que ça va être agréable d'aller les voir jouer. On va s'amuser de voir.
Ce serait tu hâte, les gars, dans 3-4 ans, avoir deux gars de Jonquière dans la Ligue nationale. C'est jamais arrivé, je ne pense pas.
Je pense pas. Mais
deux Jonquières. Pierre Pilote a joué dans la Ligue nationale, mais il était tout seul. Quand Joe Hardy a joué dans la Ligue nationale, il était tout seul. Des gars de Jonquière, je parle là. Des gars de la région, bien là, il y a eu Michel Goulet, il y a eu Mario Tremblay, il y a de l'autre, en même temps. Mais deux gars de Jonquière en même temps, là. Pas sûr. Sam Saint-Laurent jouait dans la Ligue nationale, il vient d'Arvida. Ouais. Mais quand il a joué dans la Ligue nationale, il était tout seul, je pense.
Luc
Dufour vient de Chicoutimi, mais je parle de Jonquière, là. Deux en même temps. Là.
Non.
Je ne me rappelle pas.
Mais là, on ne peut plus parler de Jonquière et Chicoutimi.
C'est Saguenay, Saguenay. Oui, mais je parle de l'arrondissement, là, Serge.
OK, d'accord.
Je parle de l'arrondissement. Comme toi, tu es un gars de l'arrondissement Parc-Rivière-du-Moulin.
Je fais partie de l'arrondissement de Chicoutimi, oui.
Bon. Serge, merci beaucoup. Tu reviens quand, là? Tu reprends l'avion?
Ben non, là, nous, il nous reste une semaine encore.
Oh, t'as encore une semaine?
Oui, demain, on couche à Thomard. Thomard, il y a peut-être des gens qui ne savent même pas c'est où.
Non.
C'est un petit peu plus loin que Saint-Ambroise, là. Après ça, on va coucher deux soirs à Évora. Et après ça, on termine en Algave, à Albufera, pour trois nuits. On revient à Lisbonne mercredi prochain, spectacle de Fado. Puis là, on prend l'avion jeudi de la semaine prochaine.
Je viens de trouver deux gars de Jonquière en même temps dans la Ligue nationale. Joe Hardy, mais Denis Dupéré.
Ah oui?
Ben oui, quand Joe Hardy jouait au Oakland, Denis Dupéré, il jouait soit à Toronto ou je sais pas où. Denis Dupéré, il a joué 6, 7, 8 ans dans la Ligue nationale, là. On l'oublie souvent, Denis Dupéré.
Joe Hardy, les gars, c'est pas Jonquière, c'était Kenogami.
Ouais, Pierre Pilote aussi.
Ouais. Fait que Serge, bon retour au Saguenay.
Les gars, un merveilleux voyage, je le souhaite à tout le monde. Merci.
Bye-bye.
On se reparle bientôt.
Tu sais, on est proche de Joe Hardy, mais là, il nous a quittés, là. Mais tu sais, c'était notre chroniqueur toutes les semaines, on y parlait régulièrement, puis tu sais, la carrière de Joe Hardy, on la connaît par cœur. Il a joué au Oakland, puis tu te rappelles, il aurait pu se retrouver avec les Canadiens de Montréal, puis il a choisi, puis il a bien fait, il nous l'a expliqué pourquoi, il est allé dans l'AMH un bout de temps. Mais Denis Dupéré, là, il a joué match des étoiles LNH.
Oui, comme, effectivement.
Comme Pierre Pilote. Dans le réveil de cette semaine, Pierre Pilote, trois Norris. Mm-hmm. Hey, trois Norris, là!
Pour un gars qui a commencé à jouer au hockey sur le tard.
À 14 ans, là. À 13-14 ans, Pierre Pilote, faut le faire.
Ils se sont côtoyés à peine une petite saison. Denis Dupéré a commencé à jouer dans la Ligue nationale en 70-71.
Mais si je me trompe...
20 matchs avec Toronto, puis Joe lui a terminé en 70-71 la Ligue nationale en jouant 40 matchs avec les Golden Seals.
Si je me trompe pas, les deux ont joué avec les Marquis en même temps.
C'est
un qui pourrait nous répondre à ça, c'est notre chum Denis Pilote.
Ils ont 3 ans de différence.
3 ans?
Oui. Joe était né en 1945, Denis est né en 1948.
Ouais, mais quel joueur de hockey! J'ai eu... T'étais-tu là quand je l'ai interviewé?
Denis Dupéré, non, j'étais
interviewé
pas,
deux
j'étais
fois. Puis, il voulait pas. C'était un gars extrêmement gêné.
Très timide, oui.
Puis là, je l'appelle... Mais là, je le connais pas. Je l'appelle M. Dupéré. Tu sais, plus vieux que moi. Ah, il dit... Finalement, il dit, oh, je vais y aller. On tient notre petit studio dans le coin, là-bas. Bon gars, là. Bon monsieur, tranquille. Parce que, tu sais, il y a eu des problèmes d'alcool.
Il y a eu des problèmes,
Il y a eu ça dur. Puis il n'a pas une très belle fin de vie non plus. Il n'est pas décédé si vieux que ça. Là. Il doit faire 3-4 ans qu'il est décédé.
Non, il est décédé en 2019. Il avait 70 ans.
70 ans, c'est pas vieux. Puis il restait ici, là, à Arvida, là, pas loin. Mais quel joueur de hockey, Denis Dupéré.
Oui.
Nicole Villeneuve, qui nous écoutait à Normandin.
Oui.
Vient d'avoir un... Ah, ben là, ça me fait plaisir. Bonjour, Nicole Villeneuve. On a parlé d'elle. Cinq personnes m'en ont parlé. Hey, tabarouette, il y a bien du monde qui nous écoute en Normandin.
Yes.
Albanel, non. Albanel, c'est la place de Justin Saint-Pierre.
Place à Justin.
Nicole Villeneuve vient de m'écrire, elle dit, Michel, il y a cinq personnes différentes qui m'ont écrit pour me dire, ils ont parlé de toi à radio.
Ça veut dire qu'il y a du monde qui la connaisse, Nicole.
Non, mais ça veut dire qu'il y a du monde, Dominique, qui nous écoute à Delbeau, puis à Saint-Félicien, oui. À Normandin, à Albanel.
Absolument.
Alors, félicitations et salutations à cette grande bénévole du hockey dans le haut du lac Saint-Jean, Nicole Villeneuve. Dans un instant, le coach des élites midget, Arnaud Dubé.
Arrêt de jeu.
Pizza Pro Arvida poursuit sur sa lancée. Nos spéciaux pour un temps limité. La 9 pouces, seulement 13,29 $. 2 9 pouces, seulement 24,99 $.
Wow!
Attends, j'ai pas fini. 3 pour 33.
Mort!
3 pizzas 9 pouces pour 33 $. Et nos trios sont toujours aussi populaires. Commandez-en un, vous verrez. Au comptoir, en salle à manger ou sur livraison, la 9 pouces en spécial. Chez Pizza Pro, rue La Salle Arvida. Livraison 548-9141.
Journée relax, on met le bateau à l'eau.
Ouais, lance-moi un gilet de sauvetage. Deuxième essai. Et une dernière fois. Ah, et mes lunettes de soleil.
Un mort sur trois lors d'activités nautiques est causé par la navigation avec capacité affaiblie. Faites le bon choix. Naviguez en toute sobriété.
Tu sais quoi? On devrait vraiment rester sur le quai.
Un message de Mad Canada.
Promo FXR rentrée scolaire chez Chasse-et-Pêche Chicoutimi. Passez nous voir ou magasinez en ligne et obtenez un minimum de 15% de rabais sur toutes les collections FXR.
Ici Annick Bilodeau. Dans mon émission, on travaille ensemble sur notre bien-être, que ce soit sur la santé, sur l'estime de soi, sur les étapes importantes de la vie. On jase bricolage, alimentation, humanitaire, consommation et justice. On échange sur des anecdotes, sur l'histoire et des faits vécus au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les spectacles et tous les magazines de K.O. Media. Jello devient même romantique dans Simplement Bilodeau, une émission diversifiée qui est faite avec le cœur et avec une musique qui vous fait du bien et qui nous fait sourire. Simplement Bilodeau du lundi au vendredi de 9h à midi et de 13h à 14h en prolongation.
Chez Léo Automobile Honda, on relève le défi de vous offrir des véhicules en inventaire et livrables en 24 heures. Choisissez votre CR-V ou votre HR-V en stock et on vous livre en 24 heures seulement. On a toujours une longueur d'avance chez Léo Automobile Honda.
Bonjour, je peux prendre votre commande? Allô?
Oui. Ah ouais, OK. Quoi ta question?
Laisse-moi deviner. Un combo défoncé au volant, super joli.
Non, juste un hamburger avec des frites.
Tu penses que tu conduis mieux quand t'es défoncé? Pense-y deux fois. Fumer du pot affecte ton délai de réaction et ta concentration. Un message de Mad Canada.
Puisque la mort fait partie de la vie, pourquoi ne pas en parler?
Les complexes funéraires.
Éric Gravel, thanatologue.
Pour répondre aux besoins des familles, les maisons funéraires ont commencé à offrir des installations leur permettant de réaliser les funérailles au même endroit. Avec l'arrivée des complexes funéraires, les familles ont maintenant accès à la salle d'exposition, une chapelle, un columbarium et une salle de réception sous un même toit.
L'Alliance funéraire du Royaume, présent à...
Vous êtes dans le vestiaire avec Michel Tifot et Dominique Bolduc.
Bon, on a de la difficulté à rejoindre Arnaud Dubé, sauf qu'on va revenir sur notre sujet tantôt, Nicole Villeneuve, là, qui en est à sa 25e saison, parce que là, elle m'écrit, là, à la tête des Éperviers de Normandin. Puis ça fait quoi? Ça fait combien d'années qu'ils sont dans la Ligue junior,
les Éperviers? Les Éperviers ont fêté leur 30e anniversaire l'an dernier, saison 22-23. Et là, ben recommence, premier match hors concours vendredi contre les Aiglons d'Alma.
On parle de Villeneuve. Tantôt, j'ai croisé un dénommé Jean-Marie Villeneuve. T'sais, on parle de bénévoles. Jean-Marie Villeneuve, les gens qui nous écoutent ici à Saguenay, là, surtout dans le secteur de Jonquière, Galougami, c'est un gars qui s'est occupé énormément de hockey et de baseball. Puis tantôt, il me disait, il dit, Michel, est-ce que tu suis la Ligue de baseball senior? J'ai dit non. On est voyageurs, puis on a le midget, puis on a beaucoup les Blue Jays. Bien, il y a trois équipes seniors de baseball ici, puis ils sont dans les séries éliminatoires. Ah, oui. Alors, salutations à Jean-Marie qui nous écoute.
Je sais qu'il y avait déjà une ligue, là, les seniors, qui avait quand même plusieurs équipes, Saint-Bruno, tout ça, mais je pensais plus qu'il y avait encore une ligue.
Oui.
Qu'il y a trois équipes. Parce qu'il y en a une ligue de baseball majeure du Québec,
Senior?
Oui, bien, ouais, senior. Dans le majeur, il y a Sherbrooke, les champions, c'est tout le temps les Blue Sox de Thetford, là, eux, là-bas, ouais, à chaque année. Ouais. Je pense qu'il y a une formation à Shawinigan. Il y a quand même là, une bonne équipe, là, une bonne ligue là, qui semble assez solide.
Alors, le baseball, toujours très populaire. Puis ce soir, ben, les Yankees contre les Blue Jays de Toronto.
Aussi, ce soir, 18h30, match de huitième de finale de Leilani Fernandez. Elle joue ce soir contre l'Américaine Emma Navarro.
Ah, Navarro a battu Mertens?
Oui. Ben, en fait, non, c'est Leila qui a battu Mertens.
Elle a battu Case.
Madison Case.
Madison Case. À Tabarouette, elle a défait Madison Case.
Oui. Et là, ben, elle se retrouve en huitième de finale contre Leilani Fernandez.
OK, on a Arnaud Dubé avec nous, puis après ça, Pierre Lavoie, le lancement de son livre « Faut que ça bouge ». Arnaud Dubé, bonjour.
Bonjour, les gars.
Hey, je suis allé au match de samedi. Je sais que vendredi, vous avez perdu ça serré 2-1.
Mais samedi... 1-0 après 40 minutes.
Il y avait du monde dans la cabane. Ouais. Même s'il y a des défaites, là, c'est encourageant quand même pour le coaching staff.
Oh, oui, moi, je trouve que c'est très encourageant. L'esprit, je pense que l'ambiance est très, très bonne autour de l'équipe. Puis j'ai vraiment aimé notre performance de samedi. Là. Je pense que des fois, ça tourne comme ça. Puis on peut pas gagner 100% des matchs, mettons, qu'on mérite ou qu'on joue bien. Mais j'ai vraiment trouvé que samedi, on avait joué un bon match. Puis j'étais très content de l'effort des joueurs.
Parce que là, Saint-Louis, on va se le dire, là, ça va être une des meilleures, sinon la meilleure formation cette année. Ils ont 4 victoires en 4 matchs. Vous êtes battus jusqu'au bout, là.
Oui, oui. C'est 2 matchs excessivement serrés. Puis... Saint-Louis, c'est un gros bassin de joueurs. Vraiment une grosse cuvée de joueurs de 15 ans là-bas là, qui vont être repêchés junior majeur assez tôt. Puis c'est sûr qu'eux, c'est des anglophones beaucoup. Donc, il y en a certains qui vont prendre le parcours NCAA aux États-Unis. Mais c'est vraiment une grosse cuvée là, de leur côté.
Puis samedi, corrige-moi si je me trompe, là, vous avez eu 2 punitions qui ont coûté cher. T'sais, Mané, il était dans votre zone. Pendant qu'ils sont dans votre zone, vous ne scorez pas. Vous êtes bien défendu en désavantage numérique. Mais là, quand tu tires de l'arrière par un but, puis là, tu as enlevé ton gardien de but à la fin, ça a fait. Mais un petit peu d'indiscipline à 3e.
Oui, exactement. Puis c'est malheureux. C'est des choses qui arrivent. Puis je dirais... C'est sûr que ça nous a coupé un petit peu les jambes. Ça nous a vraiment un peu... ça nous a mis ça difficile pour revenir. Puis je pense que c'est un mot d'ordre qu'on a adressé là, tout au long de la semaine. Puis ça va être sûr aussi pour le match de vendredi. Là. Mais tu sais, je pense qu'il faut être légèrement plus discipliné. Puis on va se donner là, des chances de réussir. Mais tu sais, tu l'as bien dit, Michel. Là, le travail des unités spéciales était très, très bon en fin de semaine. Là. Dans des avantages numériques, on a donné un seul but. Puis... en avantage numérique, on est allé en chercher 2, puis samedi, fait que on fait du bon boulot sur les unités spéciales, mais maintenant, il faut que le ratio pénalité soit un petit peu plus de notre côté.
Et là, vous jouez encore à domicile en fin de semaine. Vendredi, il y avait quasiment 1000 personnes au foyer des loisirs. Vous avez déjà un bon bagage de spectateurs qui est derrière vous. Alors, c'est de continuer. Là. Si vous étiez capable d'en mettre une ou deux dans le classement, 2 victoires, ça pourrait vous aider à continuer sur votre bonne lancée de spectateurs.
Effectivement, c'est clair que c'est quelque chose qu'on veut, mais en même temps, c'est de continuer de se développer comme équipe. T'sais, on est au mois de septembre. Fait que, oui, c'est le fun d'avoir des spectateurs. On va tout faire pour les garder avec nous, donner un bon spectacle, mais l'objectif, c'est d'avoir des matchs serrés. Puis si on est capable de les terminer en notre faveur, tant mieux. Si on ne les termine pas en notre faveur, ben ça sera ça, mais au moins, on va avoir des bonnes performances. C'est ça l'objectif. T'sais, en fin de semaine, on affronte là, une autre excellente équipe dans le circuit, là, les riverains du Collège Charlemagne, qui ont une très grosse équipe. Là, je pense qu'ils ont une seule défaite aussi depuis le début de la saison. Puis c'est aussi, eux autres, c'est un gros bassin de joueurs de 15 ans, le plus jeune, avec beaucoup de talent. Fait que ça va être intéressant.
C'est quoi vos horaires d'entraînement pour les élites midgets? Le matin, les gars vont à l'école, puis l'après-midi, ça pratique? Ou bien le contraire?
Oui, exactement. On a accès à la glace à tous les après-midi, tous les jours de la semaine, puis à différentes heures. Là, mais habituellement, il y a 2 entraînements hors glace par semaine. Puis on a 4 entraînements par semaine où on développe là, des habiletés, des situations en contre un, des situations collectives là, en progression en vue des matchs de la fin de semaine.
Est-ce que c'est pas mal comme ça partout dans la ligue? Les gars pratiquent presque tous les jours?
Oui. Toutes les équipes sont des programmes de sport études reconnus. Fait que c'est clair que c'est des choses que à tous les jours, là, tout le monde embarque sur la glace. Là.
Et ton coaching staff?
Oui.
Ça va bien?
Tout est beau, tout va bien, tout le monde a son rôle, puis on est très satisfaits.
Avez-vous un gars, je parlais avec Yannick Jean lundi, et les autres, ils ont un préparateur mental. Avez-vous la même chose dans le midget?
Oui, exactement. On a la même chose qui vient nous aider là, avec ça au niveau de l'équipe qui est disponible aussi individuellement pour les joueurs. On est rendu là en 2023.
Comme l'écrit Pierre Lavoie dans son nouveau livre, faut que ça bouge. Alors, on va aller vous encourager en fin de semaine.
Parfait, merci beaucoup.
Merci. Arnaud Dubé des élites médias de Jonquière ce soir, les Jays contre les Yankees de New York. Ça va bien, là. C'est 4 victoires de suite. Faut pas lâcher dans un petit moment. Monsieur Saines habitudes de vie. Pierre Lavoie.
Cinéphile en tout genre, ici Alain Plante. Ne manquez pas la chronique cinéma dans le retour du 92.5 tous les mardis à 17h50. Au menu, critique du ou des films de la semaine, aperçu des films et événements dans les cinémas et cinéparcs de la région et nouveautés DVD de la semaine. La chronique cinéma dans le retour du 92.5 tous les mardis à 17h50 seulement sur les ondes de votre radio 100% régionale.
Leader en toiles sur mesure depuis près de 40 ans, la qualité des toiles TCI est reconnue dans tous les domaines. Confection de toiles fixes ou rétractables pour la roulotte ou pour la maison, toiles de bateau, de camion, nommez-les. C'est sur mesure, donc on s'adapte à vos besoins. ToiletTCI.ca.
La table de concertation des aînés du Saguenay-Lac-Saint-Jean vous invite à célébrer la Journée internationale des aînés le vendredi 29 septembre à l'Hôtel La Saguenéenne sous le thème « Bien vieillir, un heureux défi ». Notre porte-parole nationale Pierre Lavoie sera présent pour une conférence très intéressante. L'accueil est à 8h et de 9h à 15h, une grande variété d'activités vous sera offerte et le dîner musical est inclus. Coût du billet, seulement 25$. Pour réservation, 418-547-8944 ou 418-376-8454. Bien vieillir, un heureux défi.
Vous êtes dans le vestiaire avec Michel Tifo et Dominique Bolduc.
Notre prochain invité, Pierre Lavoie, c'est le fun de l'entendre à la radio. Il prononce des conférences, il a facilité de parole. C'est un bon vendeur des activités, des saines habitudes de vie. Mais là, on va pouvoir le lire. Parce qu'il y a un nouveau livre de Pierre Lavoie qui est sorti aujourd'hui qui s'appelle « Faut que ça bouge ». Pierre Lavoie, bonjour!
Bonjour, Michel.
On va apprendre quoi dans le livre « Faut que ça bouge » ?
Bien, vous allez apprendre... c'est un livre, je dirais, choc. Qui va révéler des situations ou des façons de faire qui ne sont plus appropriées. Mais j'ai surtout à apprendre peut-être des nouvelles façons, peut-être à imiter justement, pour être en mesure d'obtenir des meilleurs résultats au niveau de l'activité physique chez les jeunes. Donc là, on parle des jeunes 0-17 ans. Le livre est pour bien entendu tout adulte qui gravite autour des enfants, les parents, les entraîneurs, les titulaires dans les écoles. Et pour avoir maintenant la bonne approche pour s'assurer qu'un jeune reste actif pour la vie. Ce n'est pas le cas actuellement. On perd 71% des jeunes qui arrêtent de bouger entre le secondaire 1 et le secondaire 3. Puis arrêtez-moi avec l'iPhone et les tablettes, là, c'était déjà là avant, OK? Avant qu'on ait ce fléau. Ça, c'est venu amplifier le problème, les tablettes et les écrans.
Au niveau des écoles primaires, Pierre Lavoie, est-ce qu'on bouge assez, selon toi?
Oui, au Québec, vous allez voir dans les tableaux. On compare le Québec aux provinces canadiennes, aux États américains, à la Slovénie, qui est le meilleur pays au monde, au Danemark, à la Suède, à la Finlande, à Norvège, au Japon, à l'Australie. Et on voit que le Québec, on est vraiment un pays, parce qu'on n'est plus dans le Canada, où on intervient le plus au niveau gouvernemental. C'est vraiment, on est dans les premiers au monde, là, où ce que l'État intervient pour essayer de faire bouger notre société. Mais on ne semble pas obtenir les bons résultats. Donc, c'est peut-être pas l'État. Il faut changer la culture. Donc, on se rend compte que les pays où l'État intervient moins, mais où on change la culture dès le départ, et à ce moment-là, on obtient les meilleurs résultats. Donc, le Québec, on ne peut pas reprocher à nos gouvernements de rien faire. Ça, je peux vous le dire aujourd'hui. On est dans les plus interventionnistes dans le monde. Donc, le livre, c'est tout près de 400 références. Là. Donc, c'est des références scientifiques. C'est des données probantes mondiales, mais surtout du Québec aussi, parce qu'enfin, au Québec, on s'est mis à faire de la recherche autour des jeunes. Et là, maintenant, on a des données qu'on peut partager. Et les chercheurs, bien entendu, des universités s'expriment, Mario Léoné, Sylviane Côté, Stéphanie Girard, des gens qui sont spécialistes des 0-6 ans, de la jeunesse, de la motivation intrinsèque, et des mesures qu'on prend chez les jeunes, qu'on les a pris en 1982, puis qu'on les a repris en 2017. Tout ça est dans le livre. Et c'est un constat. Au début, on appelle ça l'état des lieux. Les 50 premières pages, les gens qui vont lire, là, vous allez vous rendre compte que, OK, ça va pas bien. Et vous allez vous sentir concerné parce que vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants. Et on est tous préoccupés par ça. On est préoccupés par les écrans. D'ailleurs, il y a un chapitre au complet sur les écrans. Mais surtout, on amène des solutions. Comment faire maintenant? obtenir des meilleurs résultats. Donc, à la fin de l'évolution, c'est inévitable, on doit créer un modèle québécois. On ne peut plus suivre le modèle canadien qui imite le modèle américain. Le Québec, maintenant, doit créer son propre modèle pour être en mesure de se démarquer. On se démarque déjà, d'ailleurs. Le Québec est premier en Amérique, au niveau des saines habitudes de vie. On bat toutes les provinces canadiennes et tous les États américains. On est vraiment les premiers, là. On est les plus avancés. Au niveau de l'environnement également. Mais au niveau de la santé, on est premier. Mais quand on compare le Canada au reste, au pays scandinave, on est dernier. Donc, on est dans les pires pays au monde avec les Américains.
Pierre, tu as parlé du primaire au niveau des jeunes qui pratiquent les sports. Est-ce que l'approche est différente au niveau secondaire?
Donc, au primaire, ce qui se passe, là, ben, vous dire, le processus il est très simple. De 0 à 6 ans, c'est là que l'enfant développe sa littératie physique globale. S'il ne la développe pas à cet âge-là, il arrivera inhabile en première année. Les études, on était convaincus que c'était à la 4e ou à la 5e année de son primaire que le jeune commençait à se percevoir inhabile, puis pas bon dans les sports. Il faisait des choix contre le sport, donc autre chose que le sport. Ça l'intéressait moins. Et on s'en compte que c'est en première année que ça se passe. Et là, on s'en compte que la période 0-6 ans, c'est là que l'enfant développe 80% de sa littératie physique globale. Lancer, botter, frapper, culbuter, grimper. Ça, c'est des mouvements globaux que l'enfant doit vraiment acquérir avant 6 ans. Là, vous voyez, on n'est pas à l'école. Là. On est dans les CPE, les services de garde et chez la famille, les parents. C'est qu'on fait bien les choses. Un exemple, une butte de neige. À Saguenay, les buttes de neige sont obligatoires dans les écoles primaires. Okay. En dehors de notre région, on les enlève. On trouve ça dangereux. Et dans la butte de neige, il y a la moitié des éléments que je viens de parler qui sont là. Fait que quand on enlève la butte de neige, on vient de perdre tout un avantage pour développer l'intérêt physique des jeunes. Donc, une fois que le primaire, tu as bien fait tes affaires, les parents ont bien fait les choses, là, ils vont l'apprendre dans le livre quoi faire. Par la suite, on arrive au primaire. Au primaire, on n'a pas beaucoup de choses à reprocher. Au primaire, vraiment, le terrain a beaucoup évolué dans les dernières années. On est orienté vers le plaisir, développer des compétences, faire du sport, sortir à l'extérieur maintenant de plus en plus. Mais le bas blesse, c'est au secondaire. Au secondaire, c'est pas dû aux titulaires, là, aux enseignants c'est en éducation physique ou autre. C'est pas ça le problème. Eux ont la bonne approche. Le problème, c'est qu'ils manquent d'heures. Donc, on suggère d'augmenter de 3 heures d'éducation physique au secondaire par semaine. Parce que présentement, ils ont 2 périodes sur 9 jours et il y a une période qui n'est pas obligatoire. Donc, souvent, votre enfant va faire une activité, un cours d'éducation physique sur 15 jours. Parce que 9 jours, c'est 4 jours plus 5. Parce que la fin de semaine, on ne les compte pas. Donc, comprenez, donc on a un problème. Augmenter de 3 heures. Là, on s'approche des pays scandinaves à ce moment-là. L'autre chose, c'est qu'il faut retarder la spécialisation. Donc, tous les systèmes de hockey, de baseball, de football, de basketball, de volleyball, tout ça, tu peux le faire encore, mais tu ne mesures pas, tu n'évalues pas et tu ne compares pas les enfants. Sont trop fragiles à cette période-là.
Et là, puisque tu parles de secondaire, ben, j'ai encore beaucoup de questions, Pierre. Tu parles de secondaire. Ma question est celle-ci, parce que là, on touche la compétition. Là. On est dans le sport-études. Est-ce qu'il y a trop de compétition secondaire? Je te donne l'exemple de des parents qui m'ont parlé de leur fille, qui est une bonne joueuse de basketball, sauf que d'un match, elle joue une fois, des fois, elle joue deux fois. C'est pas suffisant. C'est inégal comme temps de jeu.
C'est des systèmes. Donc, c'est eux qu'on tire dessus là, durant le livre. Dans le livre, vous allez voir. On leur dit, soyez patients. Les Scandinaves, eux, ils disent qu'avant, la Slovénie, c'est le meilleur pays au monde, le Danemark, la Suède, la Finlande, les joueurs de hockey, là, ils ont tous le même système. Retard de spécialisation après 14 ans. Donc, avant, ils peuvent faire de la compétition, il n'y a aucun problème. Je le répète, on ne les mesure pas. Donc, dès qu'ils arrivent aux primaires, les jeunes, là, okay, donc ils ne sont pas tous compétitifs, là, mais tu dois avoir un système où on continue à avoir du plaisir avec ses amis et développer nos compétences. On n'est pas encore assez compétents. On n'a pas encore assez d'outils dans notre coffre. Si tu décides de te spécialiser dans le hockey, c'est lui le décrocheur plus tard. Les plus grands décrocheurs du sport, c'est sport-études. C'est les plus grands décrocheurs, c'est eux. Je vous dis, on a une étude là, de 1000 élèves qui viennent du Nouveau-Brunswick, qui sont suivis depuis 20 ans. On a commencé à les suivre aux primaires, et maintenant, ils ont terminé l'université, ils travaillent, et ceux qui ont eu une approche multisport sont encore actifs aujourd'hui, et ceux qui ont eu un sport-études monosport, ils ont presque tous décroché du sport.
Et je pense que tu es favorable à l'approche du multisport.
Totalement. D'ailleurs, si on veut développer plus de champions, si on veut plus de joueurs dans la Ligue nationale de hockey, si on veut plus de modèles sportifs, tous les pays qui ont retardé se sont ramassés avec plus de performants, plus de personnes qui bougent, premièrement. Donc, ils scorent beaucoup mieux en santé publique. Ils ne discriminent pas les jeunes dans la période où ils sont le plus fragiles. Secondaire 1, secondaire 2, les parents qui m'écoutent aujourd'hui, ils savent, là, C'est là que l'enfant commence à grandir, l'autre est rendu grand, l'autre est petit, il n'est pas encore développé. Dans le livre, on est très clair. Le jeune garçon se développe, atteint sa maturité à 15 ans et la jeune fille à 14. Donc, les filles, à partir de 14, tu peux les spécialiser. Les garçons, à partir de 15, tu peux les spécialiser. Mais avant cette période-là pour la fille et le garçon, tu dois augmenter leur nombre de compétences, 4 à 5 compétences différentes. Donc, il y a 4 sphères de compétences, les sports terrestres, les sports aériens, les sports nautiques et les sports de glisse. Si tu fais qu'un sport, si tu fais seulement une sphère, ces jeunes qui font seulement une sphère, qui donnent seulement une sphère, c'est eux qui sont inactifs plus tard. C'est presque assuré qu'il sera inactif votre enfant plus tard. Okay. Ceux qui ont deux sphères, eux, il y a des probabilités qu'ils soient actifs plus tard. S'ils font trois sphères, c'est quasiment assuré qu'ils seront actifs. S'ils ont quatre sphères, c'est sûr qu'ils vont être actifs. Donc, on se rend compte que de spécialiser un jeune, ça ne le sert pas. Il n'atteindra pas le même... Parce que là, on tripe tout sur Wayne Gretzky qui a commencé à 3 ans, à scorer des buts. C'est n'importe quoi. Là. On a des modèles qui sont aujourd'hui même pas capables de les répéter. Donc, il faut revoir le modèle, regarder un peu ce qui se fait dans les pays scandinaves, puis que Québec crée son propre modèle. On n'est pas loin de ça, c'est secondaire 1 et 2. Donc, toutes ces bannières qu'on accroche dans les gymnases, là, au RSEQ, dès le secondaire 1, ce qu'on veut, c'est gagner la bannière. Bien entendu, derrière une bannière, tu as dû bencher une jeune fille toute la fin de semaine pour la remporter. Bien entendu, quand on la bench, ben, sa confiance, elle, diminue. Son estime d'elle également, elle n'a pas de plaisir et on vient de toucher à l'élément le plus important dans la motivation intrinsèque, le plaisir. Et le deuxième, les amis. Vous voyez, on comprend, on sait exactement comment ça fonctionne. Là, on a assez d'études. On sait comment faire le modèle. Là, maintenant, il faut rallier tout le monde autour d'un processus où on va vraiment retarder la spécialisation et encourager les multisports.
Mais je suis content que tu aies parlé de la confiance de soi. Là. Tu donnais l'exemple du joueur ou de la joueuse qui est benchée dans son sport. Mon Dieu, que tu perds la confiance. C'est tellement important de donner de la confiance. Que le gars ou la fille devienne un joueur professionnel ou un des meilleurs joueurs de l'école, c'est pas important. L'important, c'est de leur donner la confiance en soi, peu importe la discipline.
Oui, Michel, je l'ai vu au volleyball. Moi, je l'ai vu, j'ai suivi ma fille pendant 5 ans, puis là, maintenant, elle est au cégep. Là. Je l'ai vu, là. Le drame, c'est que dans son équipe, il y a 3 filles qui se faisaient bencher là, toute la fin de semaine. Là. C'est pas le fun pour eux autres, là. Puis là, parce que l'entraîneur, il voulait gagner la bannière pour la ramener dans le gymnase de l'école. Là. Ouais. Et pour ça, bien entendu, un coach qui, lui, il a de la pression pour ramener la bannière parce qu'on veut les gagner, les bannières, les accrocher. Ben oui, pas de problème à partir du secondaire 3, mais pas à 1 et 2. À 1 et 2, ils sont en développement. Ils sont pas encore matures. Ils n'ont pas encore atteint leur maturité. Ils n'ont pas assez de compétences, parce que là, ça, c'est un sport terrestre, mais est-ce qu'il s'est nagé, ton enfant? Est-ce qu'il sait faire du ski de fond? Est-ce qu'il connaît les sports de glisse? Est-ce qu'il connaît les sports nautiques? Ah non, mon enfant, je l'ai spécialisé avant les bars.
Mais est-ce que ça revient aux professeurs de tenter de leur faire découvrir de nouveaux sports?
Ils le font. J'ai rien à reprocher aux enseignants. Donc, quand je parle, parce qu'il ne faut pas mêler les choses, quand on parle des systèmes, le parascolaire, le sport-études, tout ça, c'est pas les profs d'éducation physique dans les écoles qui font vivre ça. Là. C'est des anciens athlètes qui, eux, ont été formatés performance, qui rentrent dans les écoles, puis qui disent que maintenant, nous, on vient ici pour faire performer les jeunes. Les parents payent 3 000, 5 000 par année, et là, on fait de l'exclusion. Si t'es riche, tu peux pas, ton enfant va avoir la chance de. Si t'es pauvre, ben, tu regarderas tes amis jouer sa patinoire. T'sais. C'est ça, Michel. Là.
Oui.
Une ville, un gouvernement devrait financer, d'ailleurs, on le recommande dans le livre, tous les sports d'inclusion. Les autres, ils touchent pas à ça.
Ce fameux livre-là, c'est tout le temps qu'on a, Pierre, ce fameux livre-là, il faut que ça bouge. On peut le retrouver dès aujourd'hui dans les librairies?
Dans toutes les librairies du Québec, édition de l'Homme, c'est parti ce matin. On espère que beaucoup de gens vont le lire parce qu'il y a des parents qui ont besoin de comprendre qu'est-ce qui se produit avec leur enfant. Vous avez des jeunes enfants, dépêchez-vous d'aller le lire parce que vous ne ferez pas prendre dans les systèmes après. Vous serez même capable de challenger ces entraîneurs toxiques, ces milieux où on recherche que la performance trop tôt chez vos enfants. Vous allez comprendre, la ligne est bien tracée dans le livre et c'est des données probantes qui viennent des pays scandinaves, qui viennent à travers le monde, mais surtout des données québécoises maintenant, qui nous disent qu'il faut arrêter, il faut faire changer de modèle, absolument.
Alors, on va faire... on va voir ce que le livre va donner comme vente, puis comme aperçu auprès des enseignants puis des parents. Puis j'ai hâte, parce que j'aurais aimé ça te questionner plus sur les pays scandinaves. Est-ce que là-bas... Oui, on va prendre une minute de plus. Là-bas, le modèle, ça fonctionne? Parce que tu en as parlé 2-3 fois, là, des Scandinaves.
Le meilleur pays au monde, là, c'est les Slovènes. La Slovénie, qui n'est pas un pays scandinave, là, qui est un pays qui est plus en Europe de centrale. Et eux autres sont 2 millions d'habitants et aucune spécialisation avant 14 ans, dans aucun sport. Et eux donnent l'accès au sport à tous les jeunes. tous les jeunes ont accès au sport, c'est les villes qui financent et c'est le gouvernement. Donc, ils développent des cultures sportives. Et le but, c'est tu fais le maximum de sport avant de te spécialiser. Dans ce modèle de 2 millions d'habitants, les meilleurs cyclistes au monde, ce sont les Slovènes. Les meilleurs fondeurs au monde, ce sont les Slovènes. Les meilleurs triathlètes au monde, c'est les Slovènes. Excusez-moi, là, ils nous torchent au Québec. Au Canada, on est 40 millions, là. Ils nous torchent, les Slovènes. Puis eux, ils ont vraiment retardé. Ça fait pas longtemps qu'ils ont commencé ce modèle-là, là. Ça marche. Ensuite, le deuxième meilleur pays au monde, c'est le Danemark. Le troisième, c'est la Finlande. Puis le quatrième, c'est le Japon.
Mais nous, au Québec, on est les meilleurs au Canada. C'est ce que tu nous as dit.
Au Canada, mais l'Amérique, quand on se compare à l'Europe, on est les derniers.
On est les derniers.
On est des cancres.
Et qu'on a de l'ouvrage à faire. Alors, on va se procurer le livre en grand nombre. Pierre Lavoie, merci beaucoup. On se reparle bientôt.
Merci, Michel.
Au revoir.
Merci.
On a de l'ouvrage à faire encore.
Oh oui, on a de l'ouvrage. Oui. Mais, gars, qu'est-ce qu'il a mentionné? La Slovénie, ça fait pas si longtemps qu'ils ont instauré ce système-là. Et ça marche. Donc, on se revire de bord, puis on se met au travail. Ça semble, c'est pas compliqué.
Ouais. Mais il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. C'est important. Puis, plus on vieillit, il faut pas arrêter. Que ce soit de la course à pied... Que ce soit, peu importe, demain, je vais jouer au basketball, demain.
Ah oui?
Ça fait des années que je n'ai pas joué au basketball. C'est un sport, parce que tantôt, j'ai aimé l'exemple. Il a parlé des sports de glisse, le ski, le patin. Il a parlé des sports terrestres, la course, le vélo. Il a parlé des sports, sports aériens, le plongeon.
Oui.
Il a parlé de 4 différents sports. Puis moi, dans ma vie de tous les jours, depuis que je suis jeune, j'ai pas mal touché à n'importe quoi. Toi, à part le hockey et le baseball, tu touches à d'autres disciplines?
Un petit peu de basketball.
Un petit peu de basket?
Badminton.
Ouais. Badminton.
Badminton. Volleyball.
Tennis, moi, je joue au tennis beaucoup.
Badminton, là, j'ai joué secondaire. Là, j'aurais aimé ça, jouer compétitif. Il me semble que j'aurais été bon. J'adorais le badminton. J'ai joué un petit peu au début du cégep. Le volleyball. J'aimais ça, le volleyball. Okay. Volleyball de plage. Quand j'ai l'occasion de jouer, là, j'aime ça.
J'avais essayé le water polo.
Ah oui?
D'une piscine. J'avais adoré ça. Ben, tu es un joueur de baseball, tu es un lanceur au baseball.
Ben oui.
Hey, water polo, ding! Tu garoches ça dans le but, là. Ah, j'avais adoré le water polo. Une pause dans un instant. T'es dans le basket tantôt, on continue le basket avec Phil Urtubise.
On ferme le vestiaire. Je suis tellement tanné, là, tout augmente. L'épicerie, l'essence, les loyers. Y a-tu quelque chose qui a pas augmenté?
Le prix des cartes de bingo du 92.5, toujours à 5 $.
Te crée pas.
Mais je te dis.
Te crée pas.
Mais je te dis.
Te crée pas.
Les cartes de bingo du 92.5, toujours à 5 $. Pour trouver un point de vente près de chez vous, visitez le ckaj.org.
Les cartes de bingo à 5 $, te crée pas.
Mais je te jure.
Ben je te crée. M'en acheter.
Dans le vestiaire, l'équipe étoile 100% régionale. Vous revient après cette pause publicitaire au 92.5. Radio d'ici.
Ici Annick Bilodeau. Dans mon émission, on travaille ensemble sur notre bien-être, que ce soit sur la santé, sur l'estime de soi, sur les étapes importantes de la vie. On jase bricolage, alimentation, humanitaire, consommation et justice. On échange sur des anecdotes, sur l'histoire et des faits vécus au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les spectacles et tous les magazines de K.O. Media. Jello devient même romantique dans Simplement Bilodeau, une émission diversifiée qui est faite avec le cœur et avec une musique qui vous fait du bien et qui nous fait sourire. Simplement Bilodeau du lundi au vendredi de 9h à midi et de 13h à 14h en prolongation.
On parle basketball avec Phil Urtubise.
Ben, si le hockey commence dans les prochains jours, le basketball, c'est à peu près dans les mêmes calendriers.
Ça en vient, tranquillement pas vite.
On discute avec Phil Urtubise. Bonjour, Phil.
Bonjour, ça va?
Les camps d'entraînement sont-ils commencés dans le basketball, dans la NBA?
Oui, puis les matchs pré-saison bientôt, là. Oui, c'est tout est débuté. Le mois d'octobre, là, c'est vraiment le pré-saison.
Dans le monde du basketball, le Québécois Logan Dortz, qui a réalisé beaucoup de choses dans le monde du sport, là, il vise la Coupe du monde, puis les Jeux olympiques. C'est un gars qui, on le connaît bien parce que c'est un Québécois, de Logan Dortz. Mm-hmm. On connaît sa carrière. C'est un gars qui a beaucoup d'ambition.
Ah oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il va faire l'équipe. Là. Avec, vous savez, là, équipe Canada, au dernier championnat du monde qu'il y a eu cet été, ont battu pour la médaille de bronze les Américains. Donc, ont terminé pour la. Donc, ils ont gagné la médaille de bronze. Et là, dans le ranking pour les championnats du monde et les Olympiques Paris 24, Canada serait sommé sixième en ce moment au monde. Donc, je sais que Lugans Dort veut faire partie de l'équipe, mais un gars qui n'a pas joué cet été, comme Bénédicte Mathurin, qui est un joueur de Montréal, dans le fond, qui joue pour les Pacers d'Indiana, a aussi mentionné qu'il voulait faire partie de cette équipe-là. Donc, ça va être vraiment, vraiment, vraiment intéressant.
Bon, les Raptors, cette année, ça pourrait donner quoi comme formation?
Ah, il faut qu'ils bougent. Il faut qu'ils bougent, Michel. Pour vrai, là, ça fait 2 ans qu'ils essaient la recette, où c'est tous des joueurs, je dirais, entre 6 pieds 7, 6 pieds 8. Écoute, là, à ce moment-ci, ça ne fonctionne pas. Même quand ils font jouer Scotty Barnes comme joueur, comme meneur, quand ils mettent Pascal Siakam, ils jouent grand avec Chris Boucher, avec tous des joueurs à peu près de cette grandeur-là, OG Onanubi. La recette, c'est qu'ils ne gagnent pas, ils ne scorent pas assez de points, c'est une équipe qui ne lance pas assez bien aux 3 points. Vraiment, 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 ils doivent bouger. Là, ils ont fait un bon move, ils sont allés chercher Poeltl comme joueur de centre durant la saison l'année dernière. Je pense qu'ils doivent maintenant échanger Siakam.
On est rendu là.
C'est vraiment, vraiment là. Siakam, c'est le joueur, je pense, qui serait le moins mal à échanger. OG Onanubi.
On a-tu la relève pour Siakam, là?
Définitivement. Moi, je suis convaincu que, c'est, dans le fond, les minutes que Siakam prend, tu les donnes, dans le fond, tu les partages à Siakam dans un rôle, au lieu d'un rôle de meneur, mais dans un rôle, on appelle ça d'allié fort, ou allié rapproché. Tu les donnes à OG Onanubi aussi. Poeltl, tu le gardes comme joueur de centre, mais c'est surtout que ça libère aussi des minutes pour Dick, qui est le nouveau jeune recrue là, que les Raptors ont sélectionné, un joueur de l'Université de Kansas. À mon avis, ce joueur-là va être une recrue exceptionnelle cette année. Sa spécialité, c'est lancer aux 3 points. C'était le joueur, le meilleur lanceur de 3 points de tout le draft. C'est les Raptors qui l'ont eu. Puis il y a une belle shape. Là. Tu sais, c'est un joueur de 6 pieds 7. Donc, vraiment, là, je pense que Dick, il va vraiment faire la différence. Donc, je pense qu'on est rendu à libérer un gros morceau comme Siakam, essayer d'aller chercher une bonne monnaie d'échange pour donner des minutes à Onanubi.
Qu'est-ce que les Raptors pourraient recevoir en échange de Siakam? Quelle est sa valeur sur le marché?
Mais en ce moment, quand on parle de sa valeur, là, c'est quand même des alliés de premier plan. Là. Donc, un joueur partant, je dirais là, un 15 à 20 points par match et avec des choix au repêchage. Puis quand on parle des, c'est plusieurs. Là. La valeur à Siakam, elle est quand même très élevée.
Okay.
Pas autant qu'un joueur comme de vraiment, vraiment premier plan, mais Siakam fait le match des étoiles année après année. Hein.
C'est vrai.
Donc, il est dans les 20 meilleurs joueurs de l'NBA. Il a gagné un championnat avec les Raptors. Donc ça, puis en plus, il est loin d'être à bout d'âge. Là. Il est entre 25-30 ans, là, Siakam. Donc, il est vraiment dans son prime en ce moment. Moi, je pense que sa valeur, elle est vraiment, vraiment, vraiment...
Phil Urtubis, tu parles de l'âge des joueurs de basketball. Il y a un gars qu'on a connu à Toronto avec les Raptors qui s'appelle Danny Green. Il est de retour avec Philadelphie, mais il a 36 ans. Penses-tu qu'il y a encore du basket dans le corps à 36 ans?
Ben, l'avantage de Danny Green, là, c'est qu'il peut courir entre les lignes de 3 points. Là. Excuse-moi l'expression, là, c'est que sa spécialité, c'est lancer aux 3 points. Il n'a pas besoin de faire des jeux athlétiques comme un jeune joueur de 24 ans, par exemple. Lui, l'expression, là, il se parque, tu sais, un parking de voiture, il s'installe aux 3 points, il attend. Puis si on lui donne le ballon, puis il est ouvert, boum, il lance. Boum, il lance. Tu sais, je veux dire, c'est quand même pas trop difficile. Puis défensivement, il a tellement d'expérience qu'il est en mesure de savoir où investir de l'énergie, où se positionner. Donc, je pense qu'il y a encore des bonnes minutes à donner là, comme vétéran. Puis c'est surtout que c'est une menace constante offensivement. Tu peux pas juste laisser Danny Green puis dire, ben je focus à aider sur un autre joueur. Là. Tu dois t'impliquer défensivement sur lui. Parce qu'il est menaçant pour lancer aux 3 points.
Et d'après toi, Phil Urtubis, dernière question, quelles seront les équipes à surveiller? Là, les camps d'entraînement vont s'amorcer bientôt. Quelles sont les équipes qui devraient tenir le haut du peloton?
Écoute, il y a beaucoup de changements cette année, Michel. Je te dirais, j'ai hâte de voir parce que À mon avis, ça va être une année qui va se bouger beaucoup de changes dans le premier tiers de la saison.
Oh.
On parle, exemple, des Trailblazers avec Damien Lillard. On sait qu'il va partir de là. On parle de Giannis Antetokounmpo avec les Bucks. Il a déjà mentionné qu'il était intéressé à quitter. Il y a des rumeurs fortes avec les Knicks de New York. Donc, je te dirais de faire une prédiction en ce moment. Tu sais, je t'aurais dit les Bucks premiers dans l'Est. Mais s'il échange Giannis parce qu'il va tomber agent libre sous peu, ben, tu comprends que ça change la game totalement. Je pense que les Raptors, j'ai une équipe pour finir au moins dans le top 5. Le Heat de Miami, tout dépendamment, il y a beaucoup de rumeurs qui envoient Damien Lillard avec Miami. Si c'est le cas, automatiquement, eux deviennent premiers dans l'Est, à mon avis. Donc, ça peut bouger. Au niveau de l'Ouest, ben, j'ai hâte de voir si finalement la chimie entre Luka Doncic et Kyrie Irving peut coller. Parce que sur papier, c'est tout un club, les Mavericks. Donc, Dallas pourrait surprendre. Phoenix Suns, Lakers, toujours. Clippers, dépendamment de Kawhi, s'il est en santé. Mais je te dirais, c'est une des années, pour moi, les plus difficiles à vraiment bien prédire. Je pense qu'on a une bonne parité.
Phil Hurtubiz, merci beaucoup. De toute façon, à chaque mercredi, on va jaser basketball dans le vestiaire.
Yes, bonne semaine.
Bonne merci. Semaine. Dominique,
oui.
On a jasé hier avec Jean-Philippe Reed,
oui.
Qui a joué 65. Ah, il y en a un autre qui a joué 65. Samedi au club de Port-Alfred.
Ah oui?
Et c'est un collègue de travail à moi. Parce que j'ai mis la photo de Jean-Philippe Reed.
Jean-Philippe, yeah, ben oui.
Mon chum, Jean Tremblay, qui est conseiller municipal. Je sais que c'est un bon joueur de golf.
Oui.
Puis il m'a envoyé sa carte.
65?
Il a joué 65. Au club de Port-Alfred.
Puis Port-Alfred, je pense que c'est un 71.
En tout cas, il a joué 65. 65, il faut le faire.
C'est très bon, oui.
Que ce
oui.
soit moins 5 ou moins 6 ou moins... En tout cas, peu importe si c'est un 71, 70
c'est
ou...
C'est très bon.
Alors, 65, il y a des bons joueurs de golf dans la bon région. Joueur. Puis tu sais, Jean, je le côtoie régulièrement mm-hmm. chaque semaine. Là. Puis hier, tu as vu la pièce d'homme de...
Une bonne pièce, oh, absolument.
Jean Tremblay, c'est pas un 6 pieds 6, là.
Non, non.
Ah non, c'est un 5 pieds 9, 5 pieds 8, 5 pieds 9. Mais il joue du golf. Tu sais, des fois, on pense que tu n'as pas besoin de mesurer 6 pieds 3 pour
Jean-Philippe
frapper.
Jean-Philippe l'a dit hier. Je pense qu'il il avait dit quand il a joué 65, il a utilisé son driver 4 fois.
Et
même dans les longues drives, sa longue drive sur un par 5, mais sinon, là il utilise son fer 2, son fer 4.
Ouais, c'est ça.
T'sais, et il n'a pas besoin de défoncer la balle, non. Il joue stratégique.
Et dernièrement, souvent dans l'émission, on parle de Claude Reed, ben c'est un athlète exceptionnel. Claude Reed, c'était pas un 6 pieds 2. Là.
Mais non.
Claude Reed, un 5 pieds 9 et demi, 5 pieds 10.
Ce qui démontre.
Il dit qu'il a frappé la balle, pas à peu près, là. Mais c'est le timing, la précision. Oui.
Précision. Si t'es meilleur sur un coup d'approche de 150 verges, puis le trou en fait 300, 375, bien, regarde, tu ne frapperas pas à 300 verges tout de suite. Il faut frapper à 225 pour après ça te mettre dessus. Et c'est ça la technique. Tu n'es pas obligé de frapper de toutes tes forces sur le premier. Si tu dis, je suis meilleur sur un coup d'approche, bien, je vais frapper un petit peu moins fort, quitte à sacrifier un peu de longueur sur le premier coup, puis après ça, je vais être capable de me mettre sur le verre en deux. C'est comme ça un peu que Jean-Philippe a réussi sa ronde, puis c'est probablement cette façon-là que Jean joue également.
Dans les nouvelles de la journée, ben, on apprend que Brad Marchand va succéder à Patrice Bergeron comme
capitaine. Vient, je crois, le 21e capitaine de l'histoire de la
concession. Celui qui a été le plus longtemps capitaine, c'est on l'appelait le Chief, Johnny Busick.
Johnny Busick,
lui, était longtemps capitaine des Bruins de Boston. Je pense que Bobby Orr n'a jamais été capitaine parce qu'il jouait à l'époque de Johnny Busick.
Oui.
Puis Busick, c'était lui, le vétéran, le capitaine. Paul Byron annonce sa retraite.
Oui.
Et puis Christian Dvorak commence pas l'année.
Commencera pas l'année. Lui qui a été opéré au genou au mois de mars. Donc, on parle de retour peut-être en novembre. Alors, ça ouvre la place, ça ouvre un poste. Un joueur qui voudrait peut-être prendre cette place.
Ça commence à grenouiller pas mal dans le studio, là. Jean-Michel Gauthier arrive. Et oui, qui est derrière moi. Et toi, Dominique, t'es prêt aussi pour le retour?
Oui, absolument.
Bon, tout le monde est en mouvement.
Il ne manquait pas. 18h30 ce soir, 8e de finale, Leilani Fernandez contre Emma Navarro. Donc, du côté du tournoi de Guadalajara.
Et salutations aux auditeurs de Normandin, Albanel. Il y en a plusieurs. On a eu la confirmation tantôt. Salutations à Nicole Villeneuve, l'une des grandes bénévoles des éperviers de Normandin.
On ferme le vestiaire. De retour demain, 15h30.